Notre invité, il est là.
Yes.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Comment ça va, Nicolas?
Très bien, vous-même.
Nicolas, demain, 1er avril, c'est pas une farce, là. Taxe carbone, il y a deux taxes carbone. Il y a la taxe au fédéral qui monte, mais la taxe provinciale va s'arrimer aussi, là. On a, la bourse du carbone. Ça veut dire que pour nous, les contribuables, citoyens, tout va monter, là.
Oui, c'est sûr, la taxe carbone industrielle au fédéral, elle est appelée à augmenter. Là, je pense que c'est à peu près à 165 $ la tonne ou dans ces eaux-là. Donc, inévitablement, ça va avoir un impact plus large. On se rappelle là, que l'année dernière, la taxe carbone fédérale pour les consommateurs avait été abolie. Tout le monde avait célébré ça, mais ils ont peut-être oublié que la taxe carbone pour les industries ne l'avait pas été, elle, de son côté, elle restait en place. Puis elle est appelée quand même à augmenter. Puis un peu comme notre taxe carbone au Québec. Si on file un prix aux entreprises, il ne faut pas s'étonner que le prix soit éventuellement refilé aux consommateurs. Mais de notre côté, par contre, au Québec, ça augmentera pas tout à fait demain matin. Dans le reste du pays, ça va se faire tranquillement ressentir. Nous, la prochaine enchère du marché de carbone entre le Québec et la Californie, où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du prix, ça doit être aux alentours de la mi-mai, en fait. Oui,
mais la fédérale, là, elle va avoir un impact au Québec, là, la taxe industrielle carbone.
Nous, en fait, il y a comme deux taxes carbone qui s'appliquent au Québec. L'autre est un peu moins connue, parce qu'en fond, au total, on a trois taxes carbone. On a celle du Québec.
OK, moi, je pensais qu'il y en avait deux.
Ben en fait, c'est ça. C'est qu'on a la taxe carbone donc du Québec, le fameux CIPED depuis 2014. On a aussi, depuis 2023, la taxe sur les carburants propres. Pas la taxe sur les carburants propres, le règlement sur les carburants propres, qui implique une deuxième taxe carbone. Puis ça se fait ressentir à concurrence d'environ 7 cents par litre d'essence. Sauf que ça, c'est directement intégré dans le prix. Puis on n'a pas encore vraiment d'idée de combien ça va augmenter d'ici la fin de l'année. Par contre, on a des projections du directeur parlementaire du budget. D'ici 2030, là, on parle d'un prix d'environ 436 $ par famille québécoise qui s'ajoute à l'autre taxe carbone du Québec. Donc, on a bel et bien deux taxes carbone. Mais la taxe carbone industrielle du Canada est un peu plus complexe. C'est aussi un système de plafonnement. Puis sauf qu'elle ne nous affecte pas directement, bien sûr, si on consomme des biens et des services qui viennent du reste du Canada, qui sont touchés par cette taxe carbone industrielle, on va en payer le prix.
Oui, mais l'essence là, qui est raffinée au Québec, puis le pétrole vient de l'Ouest, je veux dire, c'est directement, là?
Bien, c'est ça. C'est d'où la raison pour laquelle on est directement affecté par le règlement sur les carburants propres et en plus la taxe carbone du Québec. Donc, on a vraiment deux qui nous ramassent. Mais celle qui est appelée à augmenter demain, elle est, c'est un impact direct, mais comme je vous dis, c'est un peu difficile pour l'instant d'établir comment ça va se faire ressentir cette augmentation-là, vu que c'est vraiment intégré dans le prix au niveau de la production de l'essence elle-même. Donc, c'est encore complexe là-dessus, mais dans tous les cas, comme je vous dis, c'est environ 165 $ la tonne. Fait que ça a pu augmenter, puis si on file un prix aux entreprises, inévitablement, il faut s'attendre à ce que ça se ressente sur le prix de l'essence et sur d'autres commodités aussi. Là.
Si j'achète l'épicerie chez Loblaws ou chez Maxi, les entrepôts sont en Ontario, là, il y a la taxe industrielle vient frapper directement les prix aussi des aliments, là?
Oui, puis en plus de ça, il faut rappeler que la taxe carbone industrielle dont je parle, en fait, celle-là est un peu plus complexe, mais aussi, il faut dire qu'elle est appelée à augmenter drastiquement parce que dans le fameux Memorandum of Understanding, le fameux MOU entre Ottawa et l'Alberta, c'est impliqué justement que oui, bon, on va faire un pipeline et tout ça, ça va passer vers l'ouest, sauf qu'en contrepartie, il va y avoir une révision du prix du carbone pour la province. Et donc, inévitablement, si on augmente le coût de production de tout carburant en Alberta, ben nous, au Québec, on est presque 100% dépendant de l'Alberta pour nos hydrocarbures. Là. Je veux dire, je pense que 90% de notre pétrole et notre gaz vient de là. Ben inévitablement, on va devoir payer plus cher. Là. Donc, ça, c'est encore un peu complexe parce que c'est pas tout à fait... on n'a pas encore toutes les données, malheureusement, là, vu que c'est basé sur un Memorandum of Understanding qui a été tout juste signé. Mais il en reste quand même que, inévitablement, nous, on va être affectés par ça. De toute manière, à partir du moment qu'on est dépendant des autres pour nos hydrocarbures, on doit payer le prix qui nous est refilé à la pompe. Là. Donc, si eux, ils payent plus cher pour la production, on va payer plus cher à la consommation. Là.
Comment ça coûte pour un plein d'essence pour des Québécois actuellement? Puis vous aviez fait l'exercice, là, d'ici 2030, comment ça allait augmenter? La taxe carbone. Là, tu me dis, il y a une troisième taxe carbone. Je savais même pas qu'il y avait une troisième taxe carbone dans l'équation. Là. Mais ça, là, actuellement, c'est combien par plein d'essence?
Ben, par plein d'essence, on prend que la taxe carbone du Québec. On est à peu près, là, c'est à peu près c'est 9 cents par litre d'essence selon la dernière enchère sur le marché de carbone. Par contre, il faut se rappeler qu'au Québec, comme dans plusieurs autres provinces, on est chanceux. On a des taxes qui s'appliquent sur les autres taxes. Fait qu'au total, en appliquant la TPS et la TVQ, la taxe carbone du Québec par litre d'essence, c'est 10,35 $. Puis à ça, ben dans le coût vraiment, qui est, là, c'est beaucoup plus intégré vraiment là, dans le prix de base, ben il y a un 7 cents aussi qui s'en va là, sur le règlement sur les carburants propres. Donc, mettons qu'on met les deux ensemble, on paye environ entre 17 et 18 cents en taxe carbone présentement au Québec. Ça a l'air de rien, là. Il y a une partie qui est assumée directement et qui s'en va dans les coffres du gouvernement du Québec, l'autre qui s'en va, qui reste dans les poches des producteurs parce qu'ils sont eux doivent se compenser pour les limitations qu'ils ont au niveau de leurs émissions. Mais on a quand même le pas loin de 18 cents par litre d'essence qui est payé présentement en taxe carbone.
Mais est-ce voulu que ça soit compliqué comme ça? C'est-tu voulu parce qu'ils viennent chercher beaucoup d'argent dans nos poches comme ça, là?
Oui, c'est 100% voulu. Puis honnêtement, je pense que Carney, puis il l'avait déjà dit lui-même de son côté, il est très inspiré par le marché du carbone du Québec. Faut se rappeler, de notre côté, on a quand même mené là, une bataille de longue haleine pour justement comme que briser le narratif qu'au Québec, on n'a pas de taxe carbone. Pourquoi? Mais parce que pendant de nombreuses années, les informations sur la taxe carbone au Québec étaient relativement occultées là, aux contribuables. C'est-à-dire qu'on ne savait pas combien on payait par litre d'essence, on ne savait pas c'était quoi l'impact sur le PIB, on ne savait pas c'était quoi... qu'est-ce que le gouvernement faisait avec cet argent-là. Maintenant que cette information-là est beaucoup plus disponible, puis surtout depuis la fin de la taxe carbone dans le reste du Canada, bon, on se rend compte finalement qu'au Québec, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais c'est ça, Carney est très inspiré du modèle québécois. Même d'ailleurs, il faut comprendre que la taxe carbone industrielle qui est en train d'être remodelée, puis c'est la raison pour laquelle je suis avec mon collègue à Ottawa la semaine dernière, justement en comité parlementaire pour parler de la taxe carbone industrielle, c'est qu'eux, ils sont en train de revoir le modèle, ne serait-ce que parce qu'ils veulent davantage augmenter le coût au niveau de la production industrielle. Donc, ça va permettre de cacher le prix. Parce qu'avant, quand c'était une taxe carbone pour les consommateurs, le monde savait ce qu'ils payaient. On se rappelle du jour au lendemain, le prix de l'essence a baissé de 20 cents à travers tout le pays. Donc, les gens ont comme compris qu'ils se faisaient avoir. Automatiquement, les libéraux ont comme compris que c'est aussi pas très populaire. Donc, ils essaient de revenir avec un mécanisme qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dur à questionner, puis aussi à démontrer les effets. Mais une chose est sûre, on va en payer le prix.
Et tout ça a un impact sur l'inflation, là. On l'a vu au Québec. Éric Girard, le ministre des Finances, a dit... Si l'inflation est 1 % de plus au Québec, 2,8 versus 1,8 dans le reste du pays, c'est notamment la taxe carbone provinciale, la fameuse bourse là, du carbone.
Ben, il l'a reconnu lui-même dans son budget. Là. C'est pas la première fois. On se souvient qu'il y avait quelques semaines aussi, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale où est-ce qu'on se demandait ben, pourquoi est-ce que l'inflation alimentaire était plus élevée au Québec. Puis on reconnaissait à chaque fois que ben parce que les autres ne payent plus la taxe carbone, puis nous, on en paye encore une. Dans le budget, ça écrit noir sur blanc, effectivement, l'inflation au Québec est la plus élevée au Canada parce qu'on a encore notre taxe carbone. Puis c'est mettons que le portrait n'est pas très, très intéressant présentement pour le Québec. Il faut quand même ajouter à ça que les projections de croissance économique sont possiblement les pires du Canada. Donc, on a la pire inflation du Canada présentement. On a aussi la pire croissance économique, puis on est seul à payer une taxe carbone qui est à la fois refilée aux industries et aux consommateurs. Est-ce qu'il y a un lien direct entre les deux ou entre les trois? Pas tout à fait, mais il n'en reste que dans un contexte actuel où est-ce qu'on est on n'est pas vraiment très compétitif au niveau de notre productivité, se taxer quand les autres le font pas, c'est pas vraiment très, très c'est pas très intelligent, mettons là.
Ouais. Et là, je sais pas si tu as vu l'histoire aussi, ce qui sort ce matin sur la vétusté des infrastructures d'eau. Une crise qui freine la construction des logements. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait une espèce de coalition là, des firmes d'ingénieurs conseils, des entrepreneurs de construction, des promoteurs immobiliers, des urbanistes qui disent là, ça va tellement mal au niveau des infrastructures sous la terre. L'argent est allé où? Je ne sais pas. Mais eux autres disent ça va prendre des compteurs d'eau éventuellement pour payer cette facture-là. Éventuellement, là. Donc, on veut comme nous faire avaler l'idée que les infrastructures, notamment d'eau, sont en très mauvais état. Et là, on dit, ça va prendre des compteurs d'eau. Donc, ça va prendre de l'argent nouveau des contribuables pour payer ces dépenses-là.
Ben exact. C'est là, pour la question de la vétusté de l'eau, je ne l'ai pas tout à fait lu encore de mon côté, mais une chose est sûre, c'est on a réalisé aussi dans les derniers budgets, puis surtout dans l'année dernière, là, le fameux budget qui nous avait amené une décote, c'est que le gouvernement il s'était quand même engagé à faire un paquet de nouvelles infrastructures. Puis là, dans le dernier budget qui a été publié dans les dernières semaines, on change la donne. Le 70% des nouvelles dépenses en infrastructure, c'est vraiment de la maintenance. parce qu'ils réalisent que, ben oui, il y a eu un laisser-aller, puis je pense que n'importe qui regarde nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, se disent, ben là, on a un plan décennal de pas loin de 170 milliards de dollars. Comment ça se fait que malgré toutes ces dépenses-là, on n'observe pas vraiment d'amélioration? Ben, c'est parce qu'on a plutôt ajouté des infrastructures, puis que veiller à leur maintenance, puis là, ben, ça nous rattrape sur l'eau. Puis ça fait un peu peur, parce que leur solution, encore une fois, c'est de faire payer les gens davantage avec un compteur à la consommation. Puis c'est drôle parce que je m'attends à ce qu'il y ait un changement radical qui se fasse au niveau des taxes sur l'essence éventuellement, parce que on n'y pense pas, mais beaucoup de nos infrastructures routières sont maintenues en partie par la taxe sur les carburants. C'est 19 cents par litre d'essence, ça rapporte au gouvernement pas loin de 2 milliards par année.
Ouais.
Mais là, si du jour au lendemain, les gens se mettent à rouler en voiture électrique, ce que le gouvernement veut de son côté, ben veut pas, on perd. Ben, le gouvernement va perdre des revenus à ce niveau-là. Donc comment est-ce qu'il va aller les chercher? Puis souvent, la solution qui nous vient, c'est. C'est pas la taxe d'immatriculation ou la taxe kilométrique. Donc, encore une fois, on se revire de bord pour mettre en place des nouveaux mécanismes.
Mais pour l'eau, c'est magique, là. Je veux dire, on invente une histoire comme de quoi tout est scrap en dessous, alors que l'argent était là. Ils l'ont pris pour faire d'autres choses. Là, ils réclament de l'argent au gouvernement. Le gouvernement dit, ben ouais, mais allez taxer l'eau.
Oui, puis en plus, c'est niaiseux, mais ils vont souvent servir d'exemple, notable. Je pense en Ontario puis en Alberta, ils payent aussi, ils ont des compteurs d'eau de leur côté. Donc, on dirait que c'est pour nos décideurs, c'est plus facile de faire avaler la pilule aux consommateurs ou aux Québécois en leur disant, écoutez, les autres le font, donc vous allez le faire aussi. Mais t'as raison, à la fin de la journée, c'est pas comme si on n'avait pas déjà mis en place ça, nous-mêmes. C'est comme si on laissait entendre qu'au courant des dernières années, il n'y avait pas eu d'investissement qui a été fait en ce sens, puis qu'il n'y avait pas eu d'argent là, pour les infrastructures liées à l'eau, comme les aqueducs. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Là, on parle de montants significatifs juste cette année. En fait, on a ajouté un 377 millions de dollars de plus dans le PQI pour les infrastructures sur l'eau, et pourtant, on considère que c'est encore insuffisant. Il y a vraiment de l'argent qui se perd, puis il faudrait peut-être s'intéresser à comment est-ce que ces contrôles ont été déployés au cours des dernières années.
Mais regarde, les villes, les municipalités sont rendues à des champs de compétences qui n'ont même pas d'affaires. Là, ils veulent gérer tout, mais dans le fond, ce qu'on leur donnait comme service de base, c'est-à-dire l'aqueduc, les égouts, ben, tu vois, il y a un déficit de 49 milliards de dollars sur les infrastructures urbaines. Donc, on dit, pour remplacer notamment les infrastructures d'eau, ben, ça va coûter 49 milliards dans les prochaines années. Donc, juste là. Donc, c'est l'argent qu'on donnait aux municipalités, aux villes, pour remplacer déjà les conduites d'eau. Ils n'ont pas pris l'argent pour ça, puis là, ils réclament de l'argent. Et là, ils vont dire, ben, on a besoin de compteurs d'eau. C'est ça que ça prend. Donc, tranquillement, c'est là, on les voit venir, là. C'est comme ça, ils s'en viennent vers ça, là.
Ben absolument. Puis là, c'est là qu'il faut pointer du doigt les municipalités comme Montréal et Québec qui se sont lancées dans un paquet de projets frivoles. Je veux dire, là, quand on l'a, je pense que Bruno Marchand, pour y rappeler, écoute, là, je pense qu'il y a d'autres priorités que le tramway, déjà que personne ne le veut, mais en plus de ça, je veux dire, il y a peut-être que c'est de l'argent qui est gaspillé présentement, qui aurait pu être bien mieux utilisé justement pour améliorer les infrastructures en eau. À Montréal, bon, on sort de 8 ans de Valérie Plante, donc on tente d'orienter le gouvernement un peu plus à droite ces temps-ci avec un ménage dans la fiscalité de la ville, mais il va falloir quand même réaliser là, que de rajouter d'autres pistes cyclables, comme même Mme Sorel Martinez veut le faire de son côté. C'est peut-être pas utiliser les bonnes ressources là, pour les véritables priorités. Là. Je veux dire, l'eau à la fin de la journée, bon, on peut dire ce qu'on veut sur les dépenses qui ont lieu au cours des dernières années, mais ça reste une priorité structurelle de première ordre. Fait que ça peut pas être négligé. Sinon, je veux dire, les villes seront tout simplement plus vivables, tout simplement. Puis là, si en plus la solution, ultimement, c'est de dire, ben, il faut que les contribuables payent davantage, ben, ça veut dire qu'on va appauvrir le monde parce qu'on n'a pas pris soin de nos infrastructures comme du monde. Alors qu'on avait toutes les ressources pour le faire. Ça n'est qu'une tête, là.
Ben, je pense que des associations comme la vôtre ont beaucoup de travail à faire, là. Hein?
Oui. on a quand même toute une année électorale en plus devant nous. Fait que c'est essayer de couvrir tout ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Mais ben, à la fin, oui, il va y avoir des sons de cloche à envoyer là, à nos dirigeants, surtout à Québec, parce que c'est des pratiques qui doivent changer.
Oui, puis on a des élections, fait qu'on va peut-être élire des gens qui vont avoir un discours différent. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup et à la prochaine.
Au plaisir, à bientôt.
Bye-bye. Ouais.
Ah, ils vont encore trouver le moyen de nous taxer, Pierre, même si on prend de mauvaises décisions.
Moi, c'est ça qui tu sais, on leur donne beaucoup d'argent. Là, les villes, tu le vois, c'est une coalition. Là, c'est une coalition de firmes, de promoteurs immobiliers, des urbanistes, des entrepreneurs en construction, des firmes de génie conseil, parce que eux autres, ils veulent des contrats.
Je comprends.
Mais tu comprends que l'argent était là. L'argent servait à d'autres choses.
Hey, mais il n'y en a plus.
Je regarde à Montréal, là, des pistes cyclables. Je pense que la mairesse qui était là avant, là, elle a mis 1 milliard. 1 milliard, ça, c'est de l'argent qui aurait dû aller dans les infrastructures de la ville.
Avant de faire toutes sortes de projets, là, comme des pistes cyclables, puis l'histoire des bancs de parc aussi, là, je ne sais pas si tu te souviens, une rue là, qu'on avait bloquée. Là, pis... Bref, avant de faire ça, va réparer ce qu'il y a en dessous. Là.
Et il va-tu avoir des compteurs d'eau aussi pour les tuyaux de la ville? Parce que là,
arrête.
Je veux bien qu'il y ait des... Non, mais je veux bien qu'il y ait des compteurs d'eau pour les citoyens, là, c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Mais tu sais, en dessous, là, ils s'en perdent de l'eau, là, des canalisations de la ville mal entretenues. Là. Ça, on le sait pas, là. Moi, je sais pas combien d'eau qui se perd. Là. Y a-t-il un rapport qui me dit que l'eau des tuyaux de la ville, qu'elle, elle a sous sa juridiction, elle a pas fait sa job, ouais. Mais elle perd tant d'eau aussi. Ils s'en perdent de l'eau, là. Fait que, regarde...
Puis, tu sais, on arrosait aussi, je pense, un air climatisé là, au nouveau poste de police.
Ben, c'est le même à
24 heures sur 24 parce qu'il chauffait.
Exact. Voilà. Hey, après la pause, Rodolphe Osny débarque. On parle de politique.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88 670 9098.
Radio X.